Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces paroles de Jésus rapportées par l'évangéliste Marc suscitent l'interrogation de nombreux catholiques. Quel lien entretenir avec la finance? Faut-il nécessairement être pauvre pour être sauvé? Nous posons ces questions aujourd'hui à l'invité de Radio Présence. Jean-Rémy Lanavert, bonjour.
Bonjour Isabelle Duché.
Vous êtes religieux de la communauté Saint-Martin, vous êtes intéressé par la doctrine sociale de l'Église et participez à la réflexion et l'accompagnement de la conception d'investissement conforme à cette doctrine dans le cadre du fonds Procléro. Et comme philosophe et juriste, vous êtes aussi consultant pour Pro Persona aux côtés de théologiens et d'experts pour approfondir les questions éthiques qui se posent à l'activité financière et économique. J'espère que j'ai à peu près résumé votre présentation.
C'est tout à fait ça.
Vous êtes enfin de passage dans notre région pour donner un cours à l'Institut catholique de Toulouse et je vous remercie de faire ce petit crochet par Radio Présence.
Merci à vous de votre invitation.
En quoi le prêtre que vous êtes est-il légitime pour aborder ces questions de finances ?
Alors effectivement, merci beaucoup de commencer par cette question. De fait, comme prêtre, ça pourrait paraître surprenant, voire un petit peu décalé ou même un peu, je dirais, limite, borderline, que effectivement un prêtre soit investi comme ça, précisément sur les questions d'investissement financier. Mais c'est vrai que moi, ma porte d'entrée, ça a été surtout ce qu'il est convenu d'appeler la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire cet enseignement qu'a développé l'Église catholique et qui porte sur les réalités on va dire du monde, réalité politique, économique, financière, écologique. Et c'est vrai que cet enseignement a ceci de particulier, qu'il est, il est à mettre en œuvre par les laïcs, c'est leur vocation propre. Et de ce point de vue-là, il est clair que le prêtre que je suis et tous les prêtres n'ont pas à se substituer évidemment à cette vocation. Néanmoins, c'est vrai que la doctrine sociale de l'Église en elle-même, eh bien, elle est, je dirais, dans sa lecture, dans sa compréhension, eh bien, elle est pour tous, c'est-à-dire qu'elle est et pour prêtres et pour laïcs. Et donc moi, c'est vrai que ça a été ma porte d'entrée de pouvoir accompagner des personnes qui étaient dans ce secteur de l'investissement financier, et puis aussi d'avoir cette occasion de, par tout un tas de circonstances, eh bien d'essayer de m'approprier cet enseignement de l'Église sur les questions économiques et financières, et puis aussi d'essayer un petit peu de participer à sa diffusion, et pourquoi pas, mais très modestement, à son actualisation. Et donc ça a été vraiment sous cet aspect-là. Donc c'est vraiment sous l'aspect, je dirais, des principes, de la réflexion, je dirais de la spéculation, mais pas financière, de la spéculation plutôt au sens de la réflexion. Et donc c'est à ce titre, et j'espère que c'est un titre de légitimité, et en tout cas, merci de rendre sensible à cette question si actuelle du bon positionnement de ceux qui sont prêtres, évêques, dans des matières dont ce n'est pas la compétence.
Mais oui, c'est ça.
Parce qu'il y a une expertise qui est à respecter, une expérience que nous n'avons pas. Néanmoins, il faut quand même ajouter que dans toute la vie religieuse, institutionnelle de l'Église, eh bien, par exemple, dans une congrégation religieuse, ceux qui sont en charge de la gestion des affaires économiques et financières sont parfois des personnes qui sont investies du ministère ordonné, c'est-à-dire prêtre ou évêque. Un évêque a une responsabilité aussi économique et financière pour son diocèse. Et donc, sous cet aspect-là, effectivement, il peut y avoir un alignement, je dirais, de la fonction ou de l'état de prêtre ou d'évêque, de diacre, et puis de ces questions économiques et financières.
Est-ce que ça vous arrive dans des accompagnements spirituels que vous faites, d'avoir des questions, justement, qui sont liées à la finance ?
Alors oui, ça arrive. C'est vrai que c'est pas si fréquent que cela. Et du reste, c'est peut-être un signe des temps. C'est que peut-être ce serait à souhaiter que ce soit plus fréquent, parce que peut-être ça veut dire que pas mal de personnes vivent les choses de manière parallèle ou séparée, comme s'il y avait deux univers un peu cloisonnés. J'avais été assez marqué par les propos de M. Pierre de Lauzin, qui est un grand spécialiste de ces questions-là, et qui aime à rappeler que la réflexion de l'Église, en fait, sur la question économique et financière, qui est une réflexion qui ne date pas d'hier, hein, qui est très ancienne, en tout cas qui a pris un essor au Moyen-Âge, eh bien, cette réflexion a pris son essor à partir justement de la confrontation des prêtres à des personnes qui parlaient de cela dans le cadre de la confession.
Oui.
Parce que c'est vrai que la question morale n'émerge pas seulement dans le cadre de la confession, mais dans l'Église, en tout cas dans l'histoire de la morale de l'Église, eh bien, ce lieu hein, qui est ce sacrement a son importance. Et donc, moi, ça m'arrive peu, mais ce que je sais, c'est que le discours de l'Église, historiquement, a pu se constituer à partir justement de ces problématiques d'accompagnement. Parce que c'est vrai que les personnes qui sont d'appartenance catholique, qui sont dans ces métiers-là, à un moment se disent mais comment faire la jonction, comment faire la soudure
et l'unité aussi.
Et l'unité, et l'unité. Comment vivre cette activité-là en chrétien, au moins en chrétien. Alors parfois on la vit en tant que chrétien parce que ce sont les activités d'église, mais pour ce qui est des activités, je dirais, séculières, il se pose ces questions et donc ça peut arriver. Que le prêtre que je suis soit amené à essayer de contribuer à ce que les personnes soient éclairées sur ces questions.
Oui, c'est ça, pour faciliter un discernement.
Voilà.
Alors, c'est vrai que l'argent a mauvaise presse dans la Bible. Je citais ce passage de Saint-Marc en introduction de notre émission. Et il y a aussi cet extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi », ces paroles de Jésus adressées au jeune homme riche. Est-ce que l'argent empêche concrètement d'être sauvé?
Alors, si l'argent empêchait d'être sauvé, ça voudrait dire deux choses. Ça voudrait dire que l'évangile ne serait pas pour tous, et ça voudrait dire que l'évangile serait un message socio-économique. Et dans les deux cas, je doute que ce soit vrai. L'argent n'empêche pas de soi d'être sauvé. Clairement, dans l'évangile, il est présenté, certes, comme un... on va dire comme quelque chose qui ne facilite pas la tâche, ou en tout cas qui peut constituer un obstacle, un frein.
Idole aussi parfois. Hein.
Alors évidemment, une idole, on se souvient du passage de Jésus en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent », et qui désigne justement l'argent en tant qu'il peut devenir une idole, le terme... utilisé dans l'évangile, c'est en fait, il ne peut servir de seigneur. En fait, c'est le même terme. Et donc, c'est clair que l'argent peut devenir une idole. Saint Paul le dit. Il y a cette l'appât du gain qui peut effectivement avoir à faire avec les idoles. Oui, bien sûr, il peut devenir ça, mais il peut être aussi, un véhicule, un instrument, en fait, pour faire le bien. Et moi, j'aime à me rappeler le passage de Zachée. Le passage de Zachée dans l'évangile de Saint-Luc, où Saint-Luc précise que Zachée était riche.
Il avait un homme du nom.
Voilà, il était riche. Et ce qui est très beau, c'est qu'à la fin, Jésus lui dit que le salut est arrivé dans sa maison, alors même que ce que Zachée a dit, c'est qu'il allait partager la moitié de ses biens, et puis qu'il allait aussi rendre quatre fois plus à ceux qu'il a extorqué, mais ce qui suppose qu'il lui reste quand même de l'argent.
C'est-à-dire
que, voilà. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai que la phrase « tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné » a sa part de vérité, mais elle n'a aussi que sa part de vérité. C'est-à-dire que quand on a donné quelque chose, on a quand même donné quelque chose, on n'a pas rien donné. Et je trouve que le cas de Zachée est assez instructif parce que Jésus, manifestement, ne lui demande pas de donner tout. Vous avez cité le très beau passage, effectivement, du jeune homme riche. Historiquement, dans l'histoire de l'Église, c'est quand même fascinant de se dire que c'est en écoutant ce passage que saint Antoine le Grand, a fondé donc le monachisme, précisément à l'écoute de ce passage de l'Évangile. Saint Athanase le rapporte, mais c'est une scène un peu comme si c'était filmé, c'est-à-dire qu'on est vraiment en direct. On assiste à la manière qu'a Antoine d'écouter à la messe ce passage de l'Évangile, de le mettre en œuvre. Ça a donné le monachisme. Mais le monachisme, c'est une forme de vie particulière, et clairement ce passage-là, s'il désigne effectivement quelque chose qui vaut pour tous, on le sait, c'est un peu facile comme renversement, mais Jésus dit, l'évangéliste note que il s'en alla tout triste parce qu'il était en possession de grands biens, mais clairement ce qu'on voit c'est que c'était plutôt ses biens qui le possédaient plutôt que lui qui possédait ses biens, et ce qui veut dire qu'il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, au lieu d'avoir, il s'est fait avoir, et il s'est fait avoir par effectivement la richesse peut prêter à cela, mais elle peut aussi offrir, à l'inverse, la capacité de faire beaucoup de bien. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Autrement, on a l'impression aussi qu'il suffit d'être pauvre pour être sauvé.
Oui, c'est vrai,
Mais non, et on ne comprendrait pas
et
non
dans ce
plus
sens-là.
pourquoi l'Église a ce combat aussi pour lutter contre la pauvreté, contre toutes les formes de pauvreté, notamment aussi parce que, ayant l'esprit que de même que la richesse peut parfois être un obstacle, l'extrême pauvreté peut aussi être un obstacle. Ça paraît un peu indécent de dire ça, alors que pour quelqu'un qui ne manque de rien, comme c'est mon cas, objectivement, mais néanmoins, c'est une constante, en fait, dans l'enseignement de l'Église, c'est que il ne suffit pas d'être pauvre, et même parfois, la pauvreté peut conduire à des formes de mal tout à fait spéciales, et raison pour laquelle l'Église s'emploie énergiquement,
À
d'autant
lutter contre la
qu'elle à lutter
pauvreté.
contre la pauvreté.
Donc, Jean-Rémy Lanavert, est-ce qu'on peut donner une définition de la finance chrétienne? Est-ce qu'elle existe, en fait, cette finance chrétienne?
Alors, ce qui existe, c'est des chrétiens qui sont dans la finance. Voilà.
Oui, ça, c'est vrai.
Ça existe, mais ce n'est pas pour autant que leur finance est éclairée par leur appartenance chrétienne. Et donc, ce qui est en train de se constituer, c'est, on va dire, une mise en œuvre de ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église, donc la doctrine sociale de l'Église, dans ce domaine de la finance, et donc mis en œuvre par des chrétiens. Est-ce que pour autant ça va donner lieu à une finance chrétienne? Pas si sûr, et c'est peut-être pas souhaitable non plus, au sens où le discours de la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas un discours, on va dire, confessionnel. C'est-à-dire que ça n'est pas un discours qui consiste à dire que tant qu'on est appartenant à telle communauté et tant qu'on met en œuvre des critères un petit peu définis formellement, du coup, c'est bon, c'est labellisé. Non, c'est
En fait,
plus.
elle s'adresse à tous.
Elle s'adresse à tous, elle s'adresse bien sûr en priorité aux membres de l'Église, parce qu'on peut comprendre que des personnes qui ne sont pas dans l'Église ne se sentent pas spécialement concernées par la doctrine sociale. Néanmoins, quand ils la lisent, ils découvrent effectivement certains principes qui sont communs et à la foi et à la raison.
C'est comme pour l'écologie.
C'est exactement comme pour l'écologie, et c'est tout à fait ça. Et sur l'écologie, l'Église aura en général deux positionnements. Un premier qui consiste à dire certains aspects de l'écologie, la plupart, sont un bien commun, nous partageons cela. Et puis, autre aspect, on va essayer de savoir un peu quelle est notre marque propre, quelle est notre
Oui.
contribution spécifique, qui parfois consiste à dire que, ah non, ça, on pense que ça n'appartient pas à la démarche écologique, ou inversement, de dire, ça, on considère que ça appartient à la démarche écologique. Donc c'est exactement ça.
Est-ce que si on dit qu'il y a une finance chrétienne, ça veut dire qu'il y aurait des outils qui seraient des outils propres, des instruments qui seraient propres, une réglementation spécifique, des labels spécifiques qui auraient été créés par l'Église?
Alors ça, c'est justement la direction qui ne va pas être suivie ou
Voilà,
qui
c'est
n'est
ça.
pas suivie. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, ce que je vais dire n'a pas du tout pour but d'établir une échelle de valeur, mais c'est vrai que dans le croisement ou l'hybridation entre finance et religion, la chose existante que les uns et les autres peuvent avoir à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la finance islamique, c'est-à-dire une finance qui cherche à être en cohérence avec les principes qui sont ceux de l'islam. Et sous cet aspect-là, il est clair que la finance chrétienne, dans l'hypothèse où ce terme, cette expression aurait un sens valable, ne ressemblera jamais à ce qu'est une finance islamique, c'est-à-dire une finance qui effectivement comprend des règles très précises, quasi juridiques, une réglementation, comme vous l'avez bien dit, qui comprendrait, je dirais, une mise en conformité. Non, non, ce qui est certain, c'est que l'Église considère que la finance est un secteur qui a son autonomie de fonctionnement et qu'il s'agit de respecter, qu'il s'agit d'habiter, mais donc pour ça, il faut en reconnaître l'autonomie pleine et entière. Et c'est à l'intérieur de cette autonomie que on va essayer de fixer des finalités qui sont un peu différentes, des manières de faire. Et c'est vrai que votre question me fait me dire que si ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'Église et de la finance pouvait donner lieu à des pratiques innovantes, à des inventions, mais en tout cas qui ne seraient pas labellisées au sens où des non-chrétiens ne pourraient pas
Oui,
y
oui.
avoir part, ce serait fabuleux.
Oui, ce serait fabuleux. Vous dites, donc, Jean-Rémy Lanavert, que en fait, alors, on a dit qu'on ne l'appelait pas finance chrétienne, mais en fait, la finance éclairée par la doctrine sociale de l'Église, elle donne quand même des finalités et des manières de faire lesquelles ce sont.
Alors, l'axe qui a été donné depuis quelque temps par les textes du magistère, c'est ce qu'on appelle le développement humain intégral. Le développement humain intégral, c'est-à-dire En disant ça, pas simplement le profit, même si le profit a sa place, mais donc le bien commun. Et ce bien commun, on peut le spécifier comme étant le développement humain, c'est-à-dire le développement de tout homme et de tout l'homme. Et donc ça, ça veut dire que ce développement humain doit être intégral. Voilà. Et c'est pour ça que se développe un peu cette idée qu'un investissement ou une pratique financière inspirée, comme vous l'avez si justement dit, par la doctrine sociale de l'Église, ce serait une finance intégrale. Pas intégrale au sens où elle serait intégralement financière, c'est-à-dire exclusivement financière, parce que justement, l'objet, c'est de croiser des critères financiers et extra-financiers. Mais l'idée, c'est que de faire en sorte que cette finance soit intégrale, c'est-à-dire intègre tout un ensemble de critères, de paramètres. Alors, c'est intéressant, dans les textes de Saint Jean-Paul II sur le sujet, sur l'investissement. Lui, par exemple, comme critère d'un investissement éthique, c'est un critère parmi beaucoup d'autres, hein, il parlait par exemple du territoire, de la localité. Alors, depuis lors, c'est revenu sous l'aspect de ce qu'on appelle les circuits courts.
Ah oui.
Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Faut-il qu'il y ait une corrélation entre la provenance de l'investissement et puis sa destination ? Quel sens ça a que d'avoir un argent qui vient de quelque part et qui est investi totalement ailleurs sans qu'il n'y ait aucune corrélation entre les deux. Encore une fois, ça n'est qu'un exemple. Mais parce que derrière, il y a l'idée que le territoire qui a produit une valeur doit être aussi bénéficiaire de cette valeur. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte de circuit tournant pour que l'émetteur soit aussi le bénéficiaire. Et ça participe au développement humain intégral.
Oui, mais si il faut justement avoir une option préférentielle pour les pauvres et soutenir les populations en difficulté, on peut comprendre qu'il y ait cette distance entre l'investissement et le destinataire.
Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, merci beaucoup de cette question, c'est la raison pour laquelle cette finance ne peut pas être une application de règles un peu mécaniques, mais elle doit être le résultat d'un discernement. Et c'est pour ça que le critère, par exemple, de la localité est un critère
Parmi d'autres,
avec d'autres. Et que et c'est pour ça que ce ne sont pas des process, qu'il n'y a pas de règles comme ça infaillibles, avec, sur certains points quand même, des points non négociables. Mais en revanche, c'est sûr que tout ça, c'est l'affaire d'un discernement.
Alors, il y a des analystes qui retiennent habituellement trois outils pour une finance éthique, l'outil environnemental, l'outil social et la gouvernance. Que permettent ces critères et en quoi l'approche chrétienne va finalement se différencier ?
Alors, ces critères permettent principalement d'intégrer dans des pratiques d'investissement autre chose que la considération de la seule rentabilité. Donc, c'est déjà immense.
C'est un premier pas.
C'est un premier pas. Et c'est un pas qui a pris beaucoup de temps. Il ne faudrait pas le considérer, je dirais, uniquement comme une sorte de minimum, parce que ça a déjà été un acquis important. C'est-à-dire que... on le sait bien, intégrer la problématique écologique dans l'investissement, intégrer des problématiques spécifiquement sociales, intégrer aussi des questions relatives à la manière qu'a par exemple la vie syndicale d'être présent dans une entreprise, c'est tout de même, c'est pas si ancien. Mais c'est sûr que par rapport à ça, je dirais que l'Église va faire deux choses. D'abord, d'abord, elle va considérer ce qu'il y a de positif dans la démarche. Première chose, on prend acte de l'existant et on le connaît et on le reconnaît comme étant quelque chose de positif. Deuxièmement, on va essayer de comprendre comment il s'est constitué. C'est sûr, c'est qu'il s'est constitué un peu de manière pragmatique, c'est-à-dire que les investisseurs, un jour il y a eu l'écologie, après, alors je ne sais pas si ça s'est fait comme ça chronologiquement, mais il y a eu comme ça des silos ou des thématiques qui se sont ajoutées l'une à l'autre. D'abord écologique, sociale, gouvernance. L'Église, par rapport à ça, aura une vision beaucoup plus organisée, beaucoup plus organique. Parce que pour quelqu'un qui a ouvert le compendium de la doctrine sociale de l'Église, c'est sûr que les grands principes de la doctrine sociale de l'Église ont vraiment une cohérence de pensée. Voilà. C'est pas simplement des thèmes ou des domaines qu'on ajoute les uns aux autres, mais ça procède d'une vision de l'homme, d'une vision de la société, etc.
Donc
ça va,
une vision plus globale, plus englobante.
Plus englobante, et c'est normal. C'est normal parce que l'ESG ne procède d'aucun de mouvement de pensée. C'est venu, je dirais, par des acteurs et qui ont été inspirants, qui ont été pionniers aussi. Mais en soi, ça ne procédait pas d'une vision du monde. Pour ce qui est de la doctrine sociale, c'est une vision du monde et de l'homme. Et puis la troisième chose, c'est que l'Église va aussi porter un regard, là aussi, de discernement, en se disant, mais Quand même, dans ce qu'on appelle écologique, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'on peut s'en tenir, par exemple, à la décarbonation? Est-ce que c'est suffisant pour que ce soit écologique? Non. Bref, voilà. Et puis, on va discerner. Puis, l'Église aura une vision plus large. Et puis aussi, parfois, malheureusement, hein, force est de constater que, et c'est pour ça que certaines personnes sont assez réticentes à l'égard de l'ESG, c'est que derrière ces critères, on a pu mettre des contenus où l'Église exprime un désaccord.
Par exemple.
Par exemple, si vous voulez, si le social confine au sociétal dans le sens que ce terme a pris aujourd'hui, prenons par exemple le critère de l'inclusivité, l'Église n'a rien contre le fait, évidemment, d'être inclusif. Si l'inclusivité concerne par exemple le handicap, allons à fond dans cette direction. Mais si l'inclusivité traite des choses qui sont, je dirais, purement idéologiques, l'Église va être un peu plus réservée. Et donc, ça, c'est sûr que ça demande là aussi un discernement.
Oui, ça demande un discernement. Merci beaucoup, Don Jean-Rémy Lanavert. Nous allons faire une petite pause musicale et écouter le concerto pour quatre pianos.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Finances et foi font-ils bon ménage? Nous posons cette question à Don Jean-Rémy Lanavert, prêtre de la communauté Saint-Martin et responsable des études de philosophie des séminaristes. Vous êtes l'auteur, avec Don Pascal André Dumont, de l'ouvrage « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église chez Salvator », un livre qui est sorti en 2022, mais il est encore bon de lire.
Ah, je ne vous dirai pas le contraire.
Vous nous avez expliqué effectivement ce que l'Église apportait à la finance, quel regard elle pose et quelle finalité elle donne. Sans être un professionnel de la finance, chacun peut se demander si ses propres pratiques d'épargne et d'investissement sont conformes à la foi catholique. Comment faire l'examen de ces pratiques?
Alors, déjà, je pense que en avoir l'idée, c'est un premier pas. C'est-à-dire que c'est peut-être un premier pas, mais qui déclenche tous les autres. Et c'est peut-être celui-ci qu'il faut d'abord viser. C'est-à-dire que c'est déjà en soi un réflexe que tout le monde n'a pas nécessairement. Eh bien, précisément de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de faire une sorte d'examen de conscience, oui. D'examen de conscience de son portefeuille. C'est-à-dire ce que j'ai, dans quelle mesure est-ce que, premièrement, je le valorise, dans quelle mesure, et puis surtout, comment. Sous cet aspect, c'est vrai que l'Église cherche à faire en sorte que ce mouvement de la consommation responsable s'étende aussi à l'épargne ou à l'investissement responsable. Parce que ça, c'est un leitmotiv du discours de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'un acte financier, un acte économique est un acte économique et financier, mais c'est aussi en tant que tel un acte moral. Et ça veut dire que, ça veut dire qu'il suppose une responsabilité. Donc on le sait, hein, consommer est un acte moral, acheter est un acte moral, et donc épargner est un acte moral, et aussi investir, en sachant que épargner, c'est investir. Et ça, parfois aussi, on a peine à voir la corrélation, puisque souvent, on voit dans un produit d'épargne, simplement un produit d'épargne, alors qu'en réalité, déjà, rien que de réfléchir à la destination que l'on souhaite à ce produit d'épargne, c'est déjà quelque chose de très grand. Et puis ensuite, c'est vrai que parmi les critères, ce que l'Église donne, c'est un peu trois types de démarches. La première, qui est historiquement la plus connue, hein, c'est le critère de l'exclusion. Alors moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, parce que c'est d'ailleurs surprenant, parce que dans le monde de la finance, il est assez utilisé, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes estiment que la finance éthique, c'est surtout une finance qui n'investit pas dans certains endroits, donc qui exclut des secteurs d'activité.
Par exemple, prostitution, trafic de drogue.
Oui, alors ça, c'est plutôt une exclusion, je dirais, par principe, parce que c'est pas légal. Mais en revanche, c'est par exemple le tabac, l'armement, l'alcool, parce que c'est vrai que l'origine de l'investissement éthique, c'est plus une origine anglo-saxonne, avec une forte empreinte protestante, et c'est vrai que ça s'est matérialisé par ça. Alors ces critères ont un sens, mais néanmoins je pense que c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'investissement éthique. Ensuite il y a le critère de ce qui est préférable, en tout cas du meilleur possible, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va dire, d'activités normales ou conventionnelles, qu'est-ce que je préfère par rapport à d'autres? Par exemple dans le secteur de l'automobile, qu'est-ce que j'estime être une valeur qui a plus de sens ou tout un tas d'aspects. Et là il s'agit pas de faire un tri entre les bons et les méchants, mais il s'agit simplement de faire une sorte d'échelle, de podium.
C'est ça. Un peu comme quand on vote, il y a cette possibilité de voter pour le moindre mal.
Exactement. Alors, l'Église parle plutôt du meilleur possible.
Oui, c'est ça, c'est plus positif dans ce sens-là.
Voilà, exactement. Oui. Parce qu'en soi, si c'est mal, il n'y en a pas, on ne peut jamais vraiment choisir le mal. En revanche, on peut estimer que dans des conditions données, c'est le meilleur possible. Oui. Voilà. Et puis la troisième démarche, qui je trouve est la plus intéressante, c'est plutôt une démarche qui ne consiste pas à exclure, qui ne consiste pas à prendre le meilleur, mais qui consiste à flécher des activités dont on estime qu'elles apportent une contribution spécialement positive, un apport à l'économie et donc à la société. Donc là, c'est pas tellement qu'on prend le meilleur dans un secteur conventionnel, mais qu'on va chercher des choses dont on estime que c'est spécialement en faveur du développement humain intégral. Voilà. Et c'est vrai qu'on est surpris parfois quand on veille un peu sur les activités qui se développent. C'est surtout vrai dans tout ce qui est effectivement autour des transitions, autour des différentes transitions que nous avons à faire. C'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité, des entreprises qui sont particulièrement intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'elles soient parfaites, parce que dans tous les cas, exactement comme pour le vote, mais exactement comme pour tous nos choix, si nous choisissions le parfait, on ne choisirait jamais.
Eh oui. C'est effectivement le problème. Vous avez dit, Don Jean-Rémy Lanavert, que l'Église prenait ce sujet de la finance à bras-le-corps. Quels ont été les dernières étapes, on va dire, les derniers documents et puis organismes qui ont été montés, qui ont été créés pour accompagner cette réflexion sur la finance?
Ben, merci beaucoup de cette question parce que évidemment ça permet de faire le point sur ce qui est vraiment une tendance, en fait une actualité. Rapidement, hein, peut-être qu'on peut se souvenir que en 2009, le pape Benoît XVI avait publié l'encyclique Caritas in Veritate qui comprenait déjà pas mal de développement sur la finance. Pourquoi ? Parce que nous étions un an après la crise de 2007-2008 qui a été une crise d'une violence inouïe et qui a eu comme particularité d'avoir été une crise qui n'a pas été une crise financière parce qu'économique, mais une crise économique parce que financière. Donc ça, vraiment, la finance s'est retrouvée au centre de l'attention, et c'est pour ça que le pape François Benoît XVI a consacré des développements à ce sujet. Ensuite, on doit signaler en 2018 un document qui est unique en son genre, en tout cas qui est le premier. C'est-à-dire que c'est le premier document d'enseignement de l'Église hein, qui a été publié par, à l'époque, on appelait ça la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et puis aussi le service, le dicaster pour le service du développement intégral. Un document qui s'appelle « Les questions économiques et financières, considérations pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel ». Et qui est un document qui n'est pas très très long et qui aborde des sujets vraiment aussi techniques que les marchés financiers, les différentes formes d'investissement. Donc c'est vraiment un tour d'horizon remarquable 10 ans après la crise des subprimes.
Et puis ensuite, ce genre de document n'est pas déjà un peu dépassé ?
Alors, c'est vrai que typiquement, quand l'Église traite de ces sujets-là, ça demande effectivement d'être à jour. Et donc, c'est des documents qui, par définition, ont vocation à être renouvelés régulièrement. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'elle est évolutive. Je ne pense pas qu'il soit déjà dépassé, mais c'est une ligne de crête qui n'est pas simple à tenir. C'est que l'Église doit s'en tenir aux principes. Un des risques, c'est que si on s'en tient aux principes, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'on est abstrait et on est éthéré ou gazeux. Et donc, il faut quand même aborder les pratiques. Or, les pratiques évoluent rapidement. Et donc, c'est vrai que c'est un des risques. Mais je pense que c'est un risque qu'il faut prendre. Et puis, de toute façon, ça appelle des actualisations, voilà, des mises à jour. Et puis, le dernier document en date, en tout cas que je peux signaler, c'est un document de 2022, de novembre 2022, hein, de l'Académie pontificale des sciences sociales, intitulé « Mensuram bonam », voilà, la bonne mesure, mesure basée sur la foi pour les investisseurs catholiques, un point de départ et un appel à l'action. Et donc, c'est un document assez programmatique et qui descend un petit peu plus dans le concret, qui se met dans la peau, peut-être pas d'un particulier, mais en tout cas d'une institution. Alors plutôt une institution d'église, mais pas que. Et de savoir comment on fait pour faire en sorte que la gestion de notre portefeuille ne soit pas totalement décorrélée de notre appartenance catholique. Donc là, il y a des pistes très intéressantes. Et puis, vous avez parlé non seulement de documents, mais peut-être aussi d'initiatives. Oui. Et sans doute que nos auditeurs ont eu peut-être vent, parce que c'était il y a très peu de temps, là, en janvier 2025. Il y a eu pas mal d'articles sur ce sujet, et c'est très heureux, parce que c'est une belle initiative, le lancement par Jean-Baptiste de Françu de l'Institut des hautes études de finances religieuses, abrité par le Collège des Bernardins, et qui essaye précisément de récolter hein, toute cette dynamique, mais sans bien sûr chercher à en avoir le monopole, parce que tout ça est très en réseau, et puis surtout de passer désormais à l'étape de la formation. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui s'élabore, il y a une prise de conscience, désormais, et sans doute que nos auditeurs seraient à même de se demander, mais tout ça c'est bien gentil, mais comment on fait ? Nous on est plein de bonne volonté, on est désireux de cela, mais vraiment,
où trouver les outils,
comment faire ? Eh bien c'est ça qu'il faut désormais mettre au point, formaliser, diffuser et communiquer.
Et puisque vous parliez de cette formation, est-ce que par exemple un économe diocésain, j'ose dire, devrait s'inspirer de tout ce travail que propose l'Église sur la finance ?
Alors, il le fait déjà.
Il le fait déjà, et
c'est vraiment très heureux, puisque effectivement la Conférence des évêques de France avait émis, j'aurais dû le mentionner hein, sans doute dans cette historique, avait émis un document qui signalait hein, quelques grandes orientations, et ce document a le mérite d'exister. Alors d'autres conférences des évêques dans certains pays ont fait aussi ce travail, et le Saint-Siège s'en est fait l'écho, et parfois ce sont des travaux assez élaborés. Alors, qui s'explique aussi parce que, bon, nous, là, c'est une différence de contexte de pays, parce que nous, en France, pour faire vite, l'Église catholique n'est pas habituée à manier gérer des montants ou des volumes financiers colossaux, certes importants, mais pas non plus colossaux, alors que dans d'autres pays, c'est plus le cas. Mmh. Il suffit de penser au fait que, par exemple, en Allemagne, certains diocèses ont leur propre banque. Ce sont d'autres échelles. Et donc, ça nécessite effectivement beaucoup plus d'expertise, de professionnalisme. Et donc, voilà. Les économes ont déjà à leur disposition, mais là aussi, hein, il faut reconnaître que tout ça est en cours. Mmh. Et donc, je crois qu'une des finalités de cet Institut des hautes études, c'est de participer à la formation des économes diocésains. Mais il faut dire aussi que les économes diocésains, ça va passer aussi par la formation ou la sensibilisation des professionnels.
Oui.
Parce qu'un économe diocésain, ce n'est pas non plus un gestionnaire d'actifs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, certes, qui a une activité directement liée aux questions économiques et financières, mais ça n'est pas non plus un professionnel du secteur. Et donc ça passe aussi par et c'est peut-être en train de se profiler. Alors il faudra voir quelle forme ça prendra, mais on peut imaginer effectivement que des professionnels du secteur de la finance non catholiques puissent un jour disposer d'une sorte de document leur expliquant que s'ils ont des clients qui souhaitent une gestion d'après les critères qui sont mis en œuvre par l'Église, il faudra suivre tel ou tel procédé, même si, encore une fois, ça ne se ressemblera pas à une application, à un catalogue et des recettes toutes faites.
Si je ne me trompe pas, vous parliez de la Conférence des évêques de France, il y a eu la création d'un fonds d'investissement qui se réfère explicitement à l'éthique chrétienne et ça avait été recensé par cette conférence.
Ah oui. Tout à fait. Les initiatives existent déjà. C'est vrai que parfois elles sont un petit peu en ordre dispersé, ce qui est bien aussi parce que ça veut dire qu'il y a une forme de liberté, de créativité. Et effectivement, il y a déjà plusieurs fonds qui s'inspirent explicitement de la doctrine sociale de l'Église, qui cherchent à la mettre en œuvre. Après, c'est sûr qu'il y a forcément un écart entre l'inspiration et puis la réalisation. Il y a un écart au sens où le réel offre quelques résistances. Mais effectivement, il y a déjà plusieurs véhicules d'investissement qui tentent l'aventure.
Alors, vous avez parlé de Benoît XVI. Il y a aussi le pape François, parce que dans son encyclique Laudato Si, il dit que l'argent doit servir au bien commun, ce que vous nous disiez au début de cette émission, et que finalement, chaque chrétien peut influencer positivement la société grâce à son capital.
C'est tout à fait ça. Alors, c'est intéressant parce que dans l'image que les uns et les autres retiennent du pape François, il y a l'image de quelqu'un qui est souvent assez énergiquement hostile à tout ce qui ressemble de près ou loin à la finance. Et bien, en réalité, on regarde que c'est sous son pontificat que ce texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi, là, les questions économiques et financières, a été publié. C'est sous pontificat que ce document de l'Académie pontificale des sciences sociales a été publié. Et donc, c'est sûr que le message qu'il souhaite faire passer, c'est sous le message d'une orientation. Parce que, ça appartient au regard que l'Église porte sur la richesse. C'est-à-dire que la richesse devient problématique quand elle est sa propre finalité. Mmh. C'est-à-dire que quand elle est en circuit fermé ou quand c'est une finalité uniquement d'accumulation.
Mmh. Individualiste.
Alors parfois, c'est un individualisme collectif parce que ça va être des grands consortiums, ça va être des entreprises, ça va être des fonds. Mais alors que le sens précisément de la richesse, c'est de contribuer à la vie de l'économie et donc à terme au bien commun. Et donc il s'agit c'est une réorientation du patrimoine, enfin de toutes les liquidités, mais qui sont dans des volumes inimaginables. C'est-à-dire que c'est ça qui est, on n'a pas idée en fait de liquidités en réserve dans le monde. Enfin, c'est absolument fascinant. Et tout ça effectivement parfois n'est pas tout simplement mobilisé, en fait, n'est pas mobilisé, utilisé.
Oui. Non seulement utilisé à bon escient, mais même pas mobilisé. Ouais.
Et donc, si ça n'est pas mobilisé, c'est utilisé à mauvais escient.
Ah oui, c'est ça.
C'est-à-dire que le sens de la richesse, c'est de servir. On a à l'esprit cette parabole où, vous savez, cette personne qui a fait des moissons tout à fait abondante et qui se dit, ben voilà, je vais pouvoir construire mes greniers, etc. Et à la fin, son problème n'est pas d'avoir fait des moissons remarquables, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, son problème, c'est justement la thésaurisation, c'est-à-dire le fait de capter pour soi, de prendre pour soi, alors qu'il y a un principe fondamental qui vaut pour l'Église et qui vaut aussi pour, par exemple, ben les épargnants, c'est le principe de la destination universelle des biens. C'est-à-dire que le sens de la propriété privée, c'est que cette propriété serve à tous, dans la mesure du possible.
Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Don Jean-Rémy Lanavert.
Merci beaucoup, Isabelle Duché.
Avec joie et bon passage à Toulouse.
Merci.